êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Merci d'avoir choisi la Radio du Monde pour vous informer à 4h exactement ici à Paris, 2h de moins en temps universel. C'est l'heure de votre journal.
Jérôme Bastion.
À la une de cette édition, nouvelle tension entre Paris et Tel Aviv. La France ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément des casques bleus, a dit Emmanuel Macron, poussant l'armée israélienne à se justifier sur les tirs qui ont blessé deux soldats sri-lankais ce vendredi. L'ouragan Milton aux États-Unis a causé la mort de moins d'une vingtaine de personnes. C'est donc moins que redouté, mais a laissé derrière lui un paysage de désolation que le président Biden visitera dimanche et dont la facture sera très lourde. Volodymyr Zelensky poursuit et achève sa tournée européenne par la capitale allemande où il a été reçu par le chancelier Olaf Scholz, lui promettant que le soutien de Berlin ne ferait pas défaut à l'Ukraine. Kiev craint pourtant un essoufflement. Le président français Emmanuel Macron a donc jugé tout à fait inacceptable que les casques bleus soient visés délibérément par les forces israéliennes dans le sud du Liban. La réaction du président français après de nouveaux tirs israéliens blessant deux soldats sri-lankais de la FINUL, dont un grièvement, vient s'ajouter à une longue liste de réprobations internationales, à commencer par celle du secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui a dénoncé une violation du droit international. Paris a donc convoqué l'ambassadeur d'Israël en France pour lui demander des explications, à quoi le diplomate a démenti tout tir intentionnel, affirmant que le Hezbollah choisissait à dessein de se positionner à proximité des déploiements onusiens pour favoriser de tels incidents. L'ambassadeur a par ailleurs rappelé que selon Tel Aviv, la FINUL déployée à la frontière libano-israélienne depuis 2006 n'avait pas correctement rempli sa mission qui consistait à empêcher le Hezbollah d'être présent dans cette zone d'où il peut attaquer Israël. Dans la soirée, l'armée israélienne a en tout cas répondu au chef de l'État français par un communiqué, Nicolas Feldman.
Sur le réseau social X, l'armée israélienne affirme avoir ouvert le feu ce vendredi suite à une menace imminente à son encontre. Menace située d'après elle à une cinquantaine de mètres d'un poste d'observation de la FINUL qui l'a poussée à ouvrir le feu, blessant deux casques bleus sri-lankais, dont un grièvement. C'est la deuxième fois en deux jours que des soldats de la FINUL sont touchés dans des tirs attribués à Israël. Jeudi, deux casques bleus, cette fois-ci indonésiens, sont tombés d'une tour après un tir de char près du QG de la Force des Nations Unies. La FINUL, composée de près de 10 000 hommes, est chargé dans le sud Liban de faire respecter la résolution 1701 des Nations Unies. Le texte prévoit que seuls les casques bleus et l'armée libanaise peuvent être déployés dans la région, mais le Hezbollah y maintient ses positions. Et depuis trois semaines, l'armée israélienne y mène aussi des incursions avec l'objectif de déloger les combattants du mouvement pro-iranien, une opération qui s'accompagne, d'après la FINUL, de tirs répétés et délibérés sur ses positions. Nicolas Feldman, Jérusalem, RFI.
Le président Macron qui en a profité pour réitérer son appel à bannir la vente d'armes pouvant servir contre Gaza, comme il l'avait fait il y a quelques jours, s'attirant les foudres de Benjamin Netanyahou, mais aussi contre les armes qui peuvent être utilisées contre le Liban, puisqu'au sud de ce pays, deux soldats libanais ont été tués et trois autres blessés dans des combats avec les forces israéliennes également. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé à un arrêt immédiat des hostilités et à un cessez-le-feu, demandant à l'ONU une résolution en ce sens. Monsieur Mikati qui affirme que le Hezbollah est d'accord pour cette solution. Et pourtant, dans la soirée, deux drones ont encore été tirés depuis le territoire libanais vers Israël. L'un a été intercepté, l'autre a occasionné des dégâts matériels à Herzliya. Pendant ce temps, l'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein a déclaré que Washington travaillait sans relâche pour ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais en guerre ouverte depuis trois semaines. Les États-Unis qui continuent de panser les plaies des ouragans de ces dernières semaines. Après Helene, Milton, le plus récent qui vient de traverser la Floride, n'a pas fait autant de victimes que redouté, certes, mais les dégâts sont extrêmement importants et il faut maintenant les réparer, a expliqué le président américain Joe Biden. On l'écoute.
C'est la troisième tempête majeure à frapper la Floride en 3 mois. Et les experts estiment les dommages à environ 50 milliards de dollars, rien que pour l'ouragan Milton. Nous sommes en contact constant avec plus de 40 responsables locaux dans les États. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider les gens à se remettre. À ma demande, les efforts du jour se sont concentrés sur le rétablissement du courant électrique et le déblayage des débris parce que ce sont des besoins urgents. Milton a laissé plus de 3 millions de personnes sans électricité, mais grâce aux efforts de plus de 50 000 techniciens de lignes électriques, de 43 États et du Canada qui se sont engagés et qui sont venus apporter leur aide, l'électricité a été rétablie pour 1 million de personnes jusque-là.
Joe Biden, le président américain, qui visitera donc dimanche la zone de Tampa en Floride, ravagée par le passage de l'ouragan Milton. C'était les propos recueillis par notre correspondant aux États-Unis, Guillaume Nodin. RFI, 4h, 6 minutes ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. L'actualité en Europe maintenant avec Volodymyr Zelensky qui a continué et terminé sa tournée sur le vieux continent. Après Zagreb, après Paris et Rome, Londres et Dubrovnik, le président ukrainien était ce vendredi en Allemagne pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. À Berlin, il a martelé vouloir la fin de la guerre avec la Russie dès 2025, c'est pas très loin, et il a appelé son partenaire allemand à ne surtout pas baisser son aide à l'Ukraine. « Notre soutien ne faiblira pas », a garanti Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky continue donc la tournée de ses alliés pour s'assurer de leur soutien. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Volodymyr Zelensky espère aboutir l'an prochain à une fin de la guerre entre son pays et la Russie. C'est ce que le président ukrainien a déclaré au début de sa rencontre avec le chancelier Scholz. L'étape allemande de cette tournée européenne était également destinée à présenter le plan de paix élaboré par Kiev, mais aussi à renouveler les demandes régulières faites à l'Allemagne, en faveur notamment de la livraison de missiles de longue portée. Une mesure que rejette Olaf Scholz, craignant une escalade du conflit. Le chancelier a tenu à rassurer son hôte alors que les aides militaires bilatérales de l'Allemagne à l'Ukraine doivent baisser de moitié l'an prochain.
L'Ukraine peut compter sur notre soutien. Notre message à Poutine est clair. Une guerre d'usure ne fonctionnera pas. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas.
Olaf Scholz a annoncé une aide à court terme de 170 millions d'euros pour aider l'Ukraine à réparer des infrastructures endommagées. Le chancelier a aussi évoqué un paquet d'aides militaires supplémentaires d'1,4 million d'euros cette année avec la Belgique, le Danemark et la Norvège. Cela s'ajoute à 600 millions déjà annoncés par l'Allemagne récemment. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et puis en France, le président Macron semble étrangement loin désormais des affaires intérieures courantes. Simple spectateur du projet de loi de finances en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné un entretien fleuve au magazine américain Variety. Il a dit notamment tout son amour pour la série Netflix Emily in Paris, espérant que les tournages ne se déplacent pas, ne se délocalisent pas à Rome, et assez loin aussi de la proposition de budget de 2025 de son premier ministre Michel Barnier. Emmanuel Macron se retranche désormais donc sur son domaine réservé, à savoir les affaires internationales. Charlotte Urien-Tomaca.
Emmanuel Macron, silencieux pendant le Conseil des ministres, laissant surtout la parole au ministre de l'économie Laurent Saint-Martin et se gardant bien de donner son avis sur le budget selon un participant. Pourtant, entre hausse d'impôts et augmentation de taxes pour certaines entreprises, les fondamentaux du macronisme sont remis en cause dans ce budget présenté en Conseil des ministres. Mais non, le chef de l'État reste en retrait, explique son entourage. Oui, ses convictions économiques sont connues, mais on a changé d'époque, c'est un temps nouveau, rappelle même l'Élysée, référence ici aux élections législatives perdues par le parti présidentiel. Pourtant, le président espère quand même que le texte sera amendé par le Parlement et que les députés de son camp y apporteront des modifications substantielles et arriveront à faire entendre leur voix. Et qu'importe les frottements et la rugosité dans la majorité atypique entre macronistes et droite traditionnelle, assume un conseiller.
Charlotte Urien-Tomaquin pour le service politique de RFI. Rappelons que l'agence américaine de notation Fitch n'a pas dégradé la note de la France qui reste à AA-, mais avec un bémol puisque cette note est assortie d'une perspective négative.